Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une montpelliéraine, pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler agriculture bio et faire en sorte d'y voir plus clair sur un sujet qui est souvent dans le flou et qui suscite des questions du côté des consommateurs et des questionnements du côté des politiques. Pour trouver des repères et vous les proposer, j'ai invité Magali Boissé et Bénédicte Firmin. Magali Boissé, en juin dernier, vous avez été élue présidente du Civan Bio 34, nous allons voir ce que c'est. Depuis 5 ans, vous êtes productrice d'œufs, les œufs de l'Ortus, à Vacquières. Antérieurement, vous avez travaillé dans une organisation professionnelle, l'INAO, l'Institut National des Appellations d'Origine, puis à la direction départementale des territoires et de la mer de l'Hérault. Qu'est-ce qui vous a conduite à changer de métier et pourquoi avez-vous choisi la production d'œufs? Dites-nous.
Alors moi, m'installer, c'était un rêve que j'avais depuis toute petite, c'est-à-dire qu'à 5 ans, je disais déjà que je voulais être fermière.
Ah. Et ça, c'est super de réaliser un rêve d'enfance.
Exactement. Et ça ne m'a jamais quittée, ce qui fait que j'ai fait des études dans l'agriculture, j'ai fait un BTS production animale. Mais la vie a fait que, comme je ne suis pas issue d'une famille d'agriculteurs, la vie a fait qu'il a fallu d'abord que je travaille. Donc j'étais embauchée dans les différents services du ministère de l'Agriculture. Et c'est suite à la rencontre avec mon mari actuel que j'ai pu relancer ce rêve. Et on a créé tous les deux entièrement ma ferme, en fait.
D'accord. Et les œufs, alors, pourquoi choisir cette production ?
Parce que l'élevage avicole est un élevage hyper technique et passionnant, en fait. C'est difficile à imaginer parce que tout le monde... Enfin, tout le monde.
On croit savoir élever une poule parce qu'on en a vu deux ou trois chez soi, ou chez la grand-mère. Ce qui n'a rien à voir, bien sûr, avec une activité professionnelle qui permette d'en vivre.
Exactement. Et ce type d'élevage est vraiment passionnant, en fait.
Très bien. Bon, ben on va poursuivre. Donc, à vos côtés, dans le studio, face à vous, Bénédicte Firmin, une des 8 membres de l'équipe des salariés du Civan Bio 34. Vous êtes en charge de la communication, de la promotion, du suivi de la distribution et de la restauration hors domicile. On voit, vous êtes tourné donc vers les consommateurs. Merci l'une et l'autre d'être venus au micro de Divergence. Alors, vous le savez, avant que vous nous parliez de vos activités, racontez-nous d'abord votre Montpellier. À votre tour d'apporter votre part aux portraits de notre ville, brossés collectivement par mes invités, par petites touches successives, semaine après semaine. Or, Magali Boissé, quels sont les lieux à Montpellier que vous appréciez particulièrement, auxquels vous êtes attaché et que vous recommandez à vos amis de passage?
Alors, ce n'est pas spécialement que je le recommanderais à mes amis de passage, mais pour moi, la gare de Montpellier-Saint-Roch a une connotation très affective parce que j'y suis toujours passée à des moments clés de ma vie, en fait.
Ah, c'est donc, comme on dit, chargé de souvenirs.
Chargé de souvenirs et d'émotions.
D'accord. Personnel, j'imagine.
Exactement.
Très bien. On ne vous en demandera pas plus, on ne fait pas dans le people. Alors, Bénédicte Firmin, bon, une question complémentaire. Comment, à vos yeux, là, Montpellier se caractérise? Qu'est-ce qui la distingue des autres villes? Qu'est-ce que vous dites quand vos amis vous interrogent? Et alors, Montpellier, là, quels sont les traits saillants, à vos yeux, que cette ville a?
Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé quand je suis arrivée à Montpellier en 2007, en fait, c'est la ville en elle-même, le quartier de l'Écusson, mais aussi le climat et la proximité de lieux que j'affectionne particulièrement, donc la mer et puis la proximité du Pic Saint-Loup et de randonnées plutôt sympathiques.
Dans la mer et les garrigues.
Voilà, c'est ça.
Très bien. Alors, commençons maintenant par voir ce qu'est le Civan Bio 34. Bio, on comprend. 34 pour l'Hérault, CIVAM, je développe, Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Alors Magali Boissé, pour y voir un peu plus clair, quels sont les objectifs, les missions du CIVAM Bio 34 et combien de membres compte-t-il à ce jour?
Donc ses missions principales, c'est de promouvoir et défendre l'agriculture biologique et de permettre une augmentation des surfaces et du nombre d'exploitations en bio. Et de pérenniser, d'une manière générale, ces exploitations et ces entreprises en bio. Donc moi, je suis présidente depuis peu, mais je trouve que c'est une association qui est vraiment précieuse et qui mérite qu'on s'investisse pour elle.
Parce que, bon, je veux dire, la qualité des échanges entre professionnels est très porteuse, hein, vous permet de progresser à la fois techniquement, commercialement. Est-ce que c'est à cette perspective-là que Silom Bio apporte à ses adhérents?
Exactement. En fait, c'est une structure vraiment fiable et très à l'écoute des agriculteurs bio. Quand on a des besoins particuliers de formation, d'échange, en fait, on le fait remonter auprès du Sylvain Bio et y a des choses qui s'organisent. C'est une structure très réactive, en fait. Et ça permet, entre des agriculteurs qui sont des fois un petit peu isolés sur leur ferme, de se fédérer, d'échanger entre nous, de créer du lien, de l'entraide, de se former, de progresser dans nos pratiques. Grâce à des journées thématiques gratuites, des formations, des groupes d'échange, des GI2E, etc.
Donc là, cet aspect, est-ce que cette contribution, cet accompagnement se fait collectivement, vous l'avez dit, ou par groupe, mais est-ce que ça peut se faire de manière plus individuelle? J'ai une problématique particulière, je ne sais pas quoi, une inquiétude sur l'état sanitaire, par exemple. Quand je fais de l'élevage, est-ce que le Silom Bio est en mesure d'apporter aussi ses réponses personnelles ou en tout cas individuelles à ses adhérents?
Ça pourrait, mais aujourd'hui, on a plutôt un angle d'attaque collectif, en fait. Parce qu'en général, un problème qui est rencontré au sein d'un élevage ou d'une ferme va certainement se rencontrer sur d'autres.
Oui, c'est ça, c'est pas un cas isolé d'espèces. Bon, bien
c'est
sûr.
Ça.
Très bien. Alors, on va poursuivre ce petit portrait là, de ce qu'est le Silom. Donc, vous l'avez dit, Sylvain accompagne les agriculteurs, mais Bénédicte Firmin, il essaie de tourner vers les consommateurs. Et comment cette partie, ce volet de son action se caractérise, se concrétise?
Oui, alors effectivement, il y a un volet promotion, communication de l'agriculture biologique auprès des citoyens et des consommateurs. Donc ça va se caractériser par plusieurs éléments. Donc à la fois un guide bio qu'on réalise tous les deux ans qui permet de répertorier à la fois les producteurs, les artisans, les transformateurs et les distributeurs pour faciliter justement l'accès aux produits bio locaux. Donc ça va être aussi une mise à jour régulière sur le site internet et une communication sur les réseaux sociaux. Et après,
ça, c'est un outil de base à caractère pratique, hein,
voilà,
accessible
c'est ça.
Sur votre site.
Exactement.
Et version papier, j'imagine, dans un certain nombre de lieux.
Voilà, et version papier accessible dans les offices de tourisme avec un partenariat avec Aérotourisme, avec une carte qui permet de situer les producteurs bio et les points d'intérêt touristique pour se dire...
faire une balade et de trouver à une heure de chez soi quelque chose de sympa qu'on a envie d'acheter en rencontrant l'agriculteur, par exemple.
Voilà, exactement. Et après, pour vraiment faire rencontrer de manière plus ponctuelle ces producteurs et ces consommateurs, on organise des événements bio, donc notamment un événement emblématique qui vient de fêter sa 14e édition.
Et oui, on l'a raté, j'aurais voulu faire l'émission avant, mais c'était trop tard, c'était il y a quelques jours. Là.
Voilà, c'était l'Hérofête la bio qui avait lieu le 19 octobre au domaine de Restinclière à Prades-le-Lez. Et après, on est partenaire d'autres événements sur lesquels on va avoir des stands où on distribue le guide bio qui est fortement apprécié. On va faire des ateliers de sensibilisation et expliquer ce qu'est l'agriculture biologique aux personnes qui en font la demande.
Très bien. Alors, on voit à peu près comment fonctionne le Silom. Maintenant, bon, on fait un effet de zoom arrière. Voyons le bio dans l'Hérault. Alors, quelles sont ses caractéristiques, hein? Le nombre d'exploitations, les productions à grand trait avec quelques chiffres là, pour qu'on repère quel est le dispositif, le potentiel humain et de production du bio dans notre département.
Alors l'Hérault est le 5e département français en nombre d'exploitations engagées en bio, avec actuellement 1576 producteurs bio qui vont cultiver plus de 45 000 hectares en bio. Et après, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça représente 25% de la surface agricole utile, donc ce qui nous place dans une bonne position, parce qu'il faut rappeler que la moyenne française n'est qu'à 10%.
Très bien. Et un nombre d'exploitations, ce 20%, là aussi, ça place l'Hérault en tête du palmarès?
Voilà, c'est ça. On a actuellement 20% des fermes de l'Hérault qui sont en bio.
Ça, c'est pas connu, j'ai l'impression. C'est quand même 20%, ça fait 1 sur 5, hein, autrement dit. On a l'impression que c'est un petit truc sympathique, mais marginal. Ça n'est pas tout à fait le cas. Alors, on rentre toujours dans le dur, là aussi, en s'efforçant de donner aux auditrices et aux auditeurs une bonne compréhension du sujet. Bon, ils n'arrivent pas de la Lune, mais tout de même. Magali Boissé, quelle est la définition de l'agriculture bio dans laquelle vous vous reconnaissez, qui sert un peu, je dirais, de point d'appui à vos actions?
Alors, l'agriculture biologique, c'est un mode de production qui respecte l'environnement et le bien-être animal. Bon, on entend souvent ces définitions, mais en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est une agriculture qui assure la préservation de la santé d'une manière générale, c'est-à-dire la santé d'abord du sol, la santé de l'eau, la santé de l'air, la santé de la biodiversité et notre santé à nous. Moi, c'est comme ça que j'aime bien l'expliquer, en fait.
Oui, donc ça veut dire que les effets attendus de ce mode de production se développent un peu sur tous les plans, quoi, pas seulement, je dirais, sur la vision stricte de qualité, je dirais, des productions, quoi.
Exactement.
Il y a une ambition plus vaste, plus générale.
Exactement. Et en plus, ça assure le respect du bien-être animal.
Alors ça, c'est bon, il me semble que c'est une notion qui est apparue plus fortement ces dernières années. On en parlait tout à l'heure en préparant l'émission. Ça figure sur certaines boîtes, pas toutes. Et ça constitue aussi, je dirais, une avancée notable dans le bio là, ces dernières années, cette prise en compte du bien-être animal. Alors, il y a des scandales liés à des abattoirs, notamment, où les conditions dont les animaux sont traités sont catastrophiques, avec l'association L204, si mes souvenirs sont bons. Mais cette préoccupation vous paraît plus largement partagée de vos pairs qui vous ont élu à la tête du CIVAM.
En fait, au niveau de la réglementation de l'agriculture biologique, il n'y a pas eu d'évolution sur ce sujet. Le bien-être animal a toujours été placé au centre du principe des élevages en agriculture biologique. Par contre, la sensibilité du consommateur a évolué sur le sujet.
Donc, une demande plus forte de la part des consommateurs.
Exactement. Et c'est pour ça que c'est important de le redire. Le cahier des charges, enfin, la production en agriculture biologique est le seul signe officiel de qualité, contrôlé donc par l'État et qui respecte un règlement européen, qui prend en compte le respect du bien-être animal.
Alors, on est passé naturellement du bio au label. Bon, on s'y perd, on a du mal à distinguer ceux qui sont fiables, ceux qui le sont moins, voire ceux qui ne le sont pas du tout, en gros, de l'esbrouffe. Sur ce sujet, pouvez-vous nous dire, dans une réponse simple, que faut-il savoir des labels quand on va faire ses courses au supermarché ou à l'épicerie du coin?
Alors, c'est vrai que depuis les dernières années, on a vu beaucoup de marques privées, en fait, avec des cahiers des charges privés se développer. On ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière. En tout cas, pour l'agriculture biologique, c'est contrôlé et garanti par l'État. Donc, vous pouvez aller les yeux fermés, acheter un produit bio. Vous serez sûr qu'il sera produit d'une manière à garantir le respect de l'environnement et du bien-être animal.
Donc, ça veut dire que pour que ce label soit respecté, il y a des contrôles.
Exactement.
Un mot sur la manière dont ces contrôles sont exercés. Moi, j'imagine qu'ils ne sont pas systématiques et généralisés. C'est par sondage, par manière périodique.
Alors, aujourd'hui, en France, les contrôles de l'agriculture biologique sont réalisés par des organismes certificateurs. Type EcoCert, Bureau Veritas et autres.
C'est des organismes indépendants.
C'est des organismes indépendants, mais qui sont eux-mêmes contrôlés par l'INAO, donc par un organisme public, qui garantit que les contrôles sont faits correctement et sont faits suffisamment fréquemment. Donc aujourd'hui, en France, il y a un contrôle chaque année chez toutes les exploitations toutes les fermes en bio.
Donc ça, c'est systématique. Quel que soit le lieu où la production est concernée.
Exactement. Plus, il y a la possibilité d'avoir un contrôle supplémentaire selon une analyse de risque, en fait. Si vous risquez d'être pollué ou vous avez un risque de mélange parce que, par exemple, vous avez un élevage en bio, mais à côté une production non bio ou je ne sais. Enfin, il y a une analyse de risque qui est menée. Et dans ces cas-là, ça peut aller à 2 contrôles par an.
C'est-à-dire de manière plus fine pour s'assurer que le cahier des charges est respecté de manière effective.
Exactement. Donc, c'est vraiment une garantie fiable pour le consommateur.
Alors, on balaye un peu encore le sujet dans un autre aspect. Après avoir progressivement augmenté, la consommation de produits bio en France a reculé. Alors, Bénédicte Firmin, que peut-on dire là-dessus pour bien comprendre, je veux dire, un peu la trajectoire, la courbe, et pour nous dire où on en est aujourd'hui, notamment dans notre département, l'Hérault.
Oui, alors c'est vrai que la consommation bio, elle a connu une croissance à 2 chiffres, on va dire, dans les années 2010. Après, sur le Covid, au moment du Covid, donc 2020-2021, on a eu encore une consommation soutenue, en fait, puisque les gens cherchent...
C'est un peu atypique par rapport à d'autres courbes, d'autres produits, où le Covid a produit un effet de recul de la consommation. Le bio, au contraire, c'est tiré l'affaire, ouais, parce que bon.
Alors sur 2020-2021, bah, du coup, il y avait aussi cet effet où les entreprises, il n'y avait plus de cantine en entreprise, il n'y avait plus d'école pour les enfants, donc les gens ont aussi plus consommé à la maison, donc essayer de trouver des produits au plus près de chez eux parce qu'ils pouvaient pas énormément sortir. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de sollicitations à ce moment-là. Il y avait une difficulté pour les consommateurs à trouver des produits, et on avait d'ailleurs mis en place sur la métropole de Montpellier, des drives de produits locaux, dont bio. Ça, c'était un aparté. Mais après, les personnes sont vite revenues à des consommations, on va dire, plus classiques. Ils ont vite oublié cette période. Et c'est vrai qu'en 2022-2023, on a eu une baisse de la consommation bio. Alors, il faut le mettre dans un contexte où, en fait, on avait une baisse de la consommation globale générale. Alors, du coup, il y avait une baisse de la consommation, sachant qu'on avait...
Des produits alimentaires, bien
voilà,
sûr.
Voilà, des produits alimentaires.
Parlons pas des autres produits, mais
voilà,
en tout
cas, produits alimentaires.
Dans cet univers de consommation-là, la tendance était à la baisse, et dans le bio a baissé à peu près comme les autres.
Voilà, dans le bio, au départ, ça a baissé à peu près comme les autres. Hein. Le bio, ça représente à peu près 6% du marché alimentaire, mais en 2023, il représentait plus que 5,6%, donc il avait diminué plus fortement. Bon, sachant que l'inflation avait quand même été moins importante sur les produits bio que sur les produits conventionnels, mais voilà, donc là, on a des signaux plutôt positifs avec une reprise de la consommation.
Depuis quelques mois.
Alors, depuis 2024, et ça se confirme en 2025, en fait, pour se dire qu'il y a une reprise de la consommation. Là, on se dit, depuis un an et demi, il y a une vraie reprise de la consommation avec des indicateurs plutôt positifs, en tous les cas.
Et ça vaut pour l'Hérault, ce phénomène français ou national? C'est la même chose dans l'Hérault, grosso modo, d'après ce que vous savez?
Oui, alors, d'après les retours terrain, effectivement, c'est ce qu'on voit dans l'Hérault. Après, cette reprise de la consommation, elle est plus marquée dans certains circuits, notamment dans les magasins spécialisés, chez les artisans commerçants et en vente directe. Donc là...
Sur les formes de petite distribution, je dirais. Bon, et dans la grande distribution, on a l'impression, on l'a vécu, que la surface dévolue ou le linéaire dévolu aux produits bio a baissé ou s'est déplacé. Où sont les produits bio? C'est une expérience personnelle. Et est-ce que la grande distribution, là aussi, qui s'est montrée un peu frileuse, reprendre un peu le chemin d'une offre un peu plus conséquente des produits bio dans ces rayons?
Alors, tout à fait, comme vous le soulignez, on voit effectivement qu'il y a eu une baisse de référencement des produits bio. Hein. Il y a eu moins 22% de produits bio dans la grande distribution. Donc, ça a pour conséquence immédiate que les produits bio, comme vous le dites, sont moins visibles, donc moins consommés. Et c'est quand même un fait important, c'est que depuis 2017, on n'avait pas vu ça. C'est-à-dire que la consommation, elle se fait globalement le plus en grande surface, mais là, on est passé sous les 50%. Donc ça, on ne l'avait pas vu depuis 2017. Là, on est à 47% des produits consommés en grande distribution, et c'est encore en baisse cette année de 5%.
D'accord. Donc, il y a du travail à faire, mais ce que je retiens aussi, c'est que le discours des médias et autres, pas toujours bien intentionnés, disant qu'il y avait une espèce de baisse catastrophique et peut-être définitive sur le produit bio, c'est à nuancer, ça, parce que, vous voyez ce que je veux dire, je pense ça, il y a un effet négatif assez général, hein, sur l'opinion de cet état de fait que vous nuancez, en tout cas, ou voir que vous contestez.
Tout à fait, c'est à nuancer, parce qu'après, il y a des... Quand les médias peuvent parler en fait de consommation bio, ils vont avoir les grands chiffres de consommation en grande distribution. Mais aujourd'hui, le bio n'est pas consommé qu'en grande distribution. Voilà. Et il y a quand même tous ces circuits qui sont importants aussi, hein, puisque tous ces circuits représentent aujourd'hui plus que la grande distribution. Donc les magasins spécialisés. Voilà, à eux tous.
On ne va pas citer de marque. Dans le métier.
Ce que je veux dire, c'est que les magasins spécialisés bio aujourd'hui représentent 30% de la consommation bio. Donc c'est quand même très important. Et c'est les magasins qui vont notamment apporter beaucoup de consommateurs. Enfin, sur les fruits et légumes, en fait, ça va être le rayon
donc,
phare de ces
magasins. Des consommateurs de proximité.
Tout à fait.
Comme on le sait. Très bien. Alors, le principe même de l'agriculture bio, c'est le refus de l'utilisation des pesticides et des engrais chimiques, vous l'avez dit. La bataille pour avancer plus fortement dans ce sens est toujours en cours. Alors, rappelons les faits. Une loi dite Duplomb visait notamment à autoriser l'utilisation d'un pesticide toxique, l'acétamipride, et à lever d'autres contraintes sur le métier d'agriculteur. Elle porte le nom de Laurent Duplomb, sénateur de la Haute-Loire, ancien président de la Chambre d'agriculture et membre d'un des piliers de l'agriculture traditionnelle, la FDSEA, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, Magali Boissé, sur pourquoi les pesticides sont-ils dangereux? Qu'est-ce qu'il atteste? Alors, on va pas faire un développement, mais en gros, voilà, qu'est-ce qui justifie la prudence, voire l'alerte, sur les effets négatifs multiples des pesticides pour la santé humaine, mais pas seulement?
Je crois que c'est connu par tout le monde. Aujourd'hui, il y a un lien direct qui a été fait quand même entre l'augmentation des cancers et l'utilisation des pesticides chimiques.
Oui, donc déjà, il y a des études scientifiques nationales et internationales sur ce sujet qui vont dans ce sens. Alors, cette loi Duplomb a été votée en juillet dernier, mais son article sur les pesticides, donc très contesté, a été censuré par le Conseil constitutionnel. Il est sorti de la loi, donc. Entre-temps, un mouvement d'opinion d'une ampleur inédite est apparu, une pétition intitulée « Non à la loi Duplomb pour la santé, la sécurité, l'intelligence collective » a été signée par, chiffre d'hier, sur le site de l'Assemblée nationale, 2 131 196 personnes. Cette pétition a été lancée, il faut le rappeler, par Éléonore Pattery, elle mérite d'être saluée, une étudiante en master qualité, sécurité, environnement. Alors, Magali Boissé, que pensez-vous de ce phénomène et que dit-il, selon vous, de la société française actuelle sur ce genre de sujet?
Eh bien, moi, ça m'a fait plaisir.
Déjà. Donc, oui, c'est ça, parce que c'était quand même, j'imagine, la confirmation d'une intuition que vous pouviez avoir là, sur la sensibilité croissante des Français à ces questions.
Après avoir été catastrophé par cette loi Duplomb et regretter à quel point on repart en arrière, selon moi. Ce retour du soutien citoyen avec ce qui semble être un nouvel éveil des consciences qui a toujours été présent mais qui s'était peut-être un peu endormi surtout que la bio a été un petit peu maltraitée les derniers temps et ben moi ça m'a fait plaisir.
Très bien.
Et ça m'a redonné de l'espoir
Alors la bataille politique sur les pesticides a repris, la pétition y a été déposée dans les formes légales, c'est très important, ça. Elle est aujourd'hui, enfin ces jours-ci, examinée par la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Ce sont des échanges sans vote qui devraient être suivis d'un débat en séance publique et puis aller au Sénat. Ces débats se caractérisent par un maintien de position très tranché. Alors vous avez dit, nouvel éveil des consciences, j'aime bien la formule. Est-ce que vous avez des raisons d'espérer que sur cet enjeu qui me paraît stratégique, déterminant, ça peut bouger dans le bon sens, si ce n'est tout de suite, du moins à terme?
Ben, on l'espère.
Voilà. Mais il y a une incertitude.
Oui.
Parce qu'un rapport de force, c'est qui est compliqué. Quoi,
c'est ça.
Très bien. Alors, on arrive, on s'achemine vers la fin de l'émission. Alors, le bio, on l'a évoqué, charrie beaucoup d'idées reçues, qui visent souvent à le contester. Les CIVAM ont publié il y a quelques années une brochure, on la trouve sur votre site, intitulée « Le topo de la bio, brochure qui répond aux allégations ». Alors, je vais vous poser des questions relatives à ça, parce que bon, ça me semble aussi intéressant de chasser ces idées fausses, idées reçues. Bénédicte Firmin, quelle est l'idée reçue que vous rencontrez souvent autour de vous, dans votre entourage notamment, dans les journaux, et qui vous exaspère?
Alors effectivement, des idées reçues, il y en a beaucoup sur la bio, donc on le trouve effectivement dans le document que vous avez évoqué, aussi dans un autre guide qui s'appelle « Guide pour nos amis biosceptiques ». Et ce qui nous
On le trouve aussi sur votre site,
On le trouve aussi sur notre site, bio34.com.
Et, guide pour nos amis biosceptiques. Voilà, c'est ça. On comprend l'intention.
On comprend l'intention. Et voilà, quelque chose qui revient souvent, c'est de dire « bah oui, mais moi je ne peux pas consommer bio, c'est cher ». Alors ça, voilà, c'est quelque chose qui revient souvent. Il y a eu plusieurs campagnes de communication pour comparer les prix des produits bio en vente directe, en grande surface, et des fois on a quand même des surprises au niveau des prix. Après, voilà, l'argument, c'est de dire qu'il y a plus d'emplois salariés dans les fermes bio, on a quand même plus 60% d'emplois par ferme bio.
Donc une attention portée à la qualité de la production plus grande, ça se traduit comme ça, cet investissement humain dans les exploitations.
Et ben, l'investissement humain, c'est aussi puisqu'on utilise moins de produits, par exemple pour, pour désherber, on va faire un désherbage mécanique, donc forcément il faut plus de main d'œuvre.
Sa machine et sa petite main.
Voilà, c'est ça, exactement, et on ne va pas mettre des produits pour désherber, donc forcément il y a plus de main d'œuvre. Et sur les exploitations bio, il y a aussi plus de vente directe, donc il faut des personnes qui assurent la vente directe, donc voilà, ça s'explique assez facilement. Et après, par rapport au prix, c'est que les gens, ils ne se rendent pas toujours compte qu'on n'est pas dans une société, on a souvent évoqué ça, de pollueur-payeur. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde va mettre la main à la poche, par exemple, pour décontaminer l'eau.
Oui.
Et en fait, ça, on le voit sur nos factures d'eau, mais tout le monde paye. Alors qu'aujourd'hui...
Oui, ça, on ne le distingue pas, on ne l'isole pas.
Voilà.
Cette contribution du contribuable, disons, à la qualité de l'eau, avec les répercussions positives, bien sûr, que
voilà.
Ça...
Voilà. Et il y a plusieurs études qui montrent que quand il y a de l'agriculture biologique autour des captages d'eau, l'eau, elle est moins polluée. On accompagne d'ailleurs des collectivités qui sont venues à nous pour ça, en fait, parce qu'ils avaient une mauvaise qualité de l'eau. Ils se sont dit, comment on peut faire ?
On va savoir-faire en la matière.
Voilà, on va installer ou convertir des producteurs à la bio pour avoir une meilleure qualité de l'eau, pour que ça nous coûte moins cher. Donc en fait, si on regroupe tout ça, finalement, le bio n'est pas plus cher. Voilà, ouais, pas si bien. Cher.
Alors Magali Boissé, donc vous allez donc conclure, comme il se doit, même question. Quelle est cette idée forte, cette allégation, ce baratin parfois, qui vous insupporte sur la bio?
Alors on en entend beaucoup, évidemment. Moi, du coup, je vais parler de la production qui me tient à cœur. Souvent, on me demande, mais vos poules, elles sont en bio, mais est-ce qu'elles sortent? Et oui, tous les animaux certifiés agriculture biologique ont accès à un parcours extérieur, et en plus, d'une manière pas dense. C'est-à-dire que, par exemple, un œuf fermier, vous n'allez pas avoir un minimum de surface à respecter par nombre d'animaux. En bio, quel que soit le type de production, on est obligé d'avoir un nombre de mètres carrés par animal garanti. Voilà,
d'accord,
par exemple.
Donc, ce n'est pas de l'intensif, on le dit bon, le mot peut être discuté. Et donc, cet état de fait vous paraît... méconnu, voire ignoré.
Tout à fait, parce qu'il y en a sur les boîtes d'œufs qui vont écrire œufs produits en plein air, de poules en plein air, et nous, ça va de fait. Si c'est un œuf bio, c'est obligatoirement que les poules sortent. Voilà.
Elles sortent, pas toute la journée nécessairement, j'imagine, parce qu'elles sortent un quart d'heure, c'est pas très... ça ne s'arrête pas grand-chose. Est-ce qu'il y a une durée minimum du terrain, entre guillemets, que les règlements indiquent, hein?
Oui, il faut qu'elles sortent avant 11h le matin, et de toute façon, elles rentreront par elles-mêmes que quand la nuit sera tombée.
D'accord, donc ça fait plusieurs heures, donc une dizaine d'heures.
Ah oui, 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 oui.
Très bien.
Mais de toute façon, pour leur santé et leur bien-être, obligatoirement, on les fait sortir. Quand on a cette priorité en tête, on fait sortir nos animaux.
Donc chacun voit la différence avec les photos qu'on connaît de poules en batterie d'un nombre indéfini, là, et qui sont bien sûr à contre-sens par rapport à ce que vous avez expliqué l'une et l'autre. Je vous remercie de votre contribution et peut-être à une prochaine fois.
Merci à vous.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une Montpelliéraine, une pure jus.
Bah, Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Dudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.